Eh bien, il manquait le foie gras. Eh bien, le foie gras, le voici. Et Robert, nous t'écoutons.
Je te remercie de toutes ces paroles, de ce rappel de notre passé commun. Et j'ai toujours autant de plaisir à venir dans ce qui est devenu l'UTL, qui a succédé à ce qui m'avait attiré ici, qui s'appelait le Carrefour universitaire. Donc, pour rentrer en douceur dans cet exposé, je vous propose un petit exercice lexicologique. Si vous avez la curiosité d'aller voir le mot « foie » dans le dictionnaire Littré, qui est un excellent dictionnaire, qui est paru dans les années 1860-1870, vous y verrez que Littré présente trois acceptions du terme. La première, c'est un viscère qui, etc., donc ça c'est tout à fait prosaïque. La seconde, c'est un terme vétérinaire, je n'insiste pas. Mais la troisième acception est très intéressante, parce qu'elle nous dit que c'est un terme de cuisine. Il se dit du foie que l'on mange, foie de veau piqué, un pâté de foie gras. Donc l'exemple donné par Littré fait référence au foie gras. Du foie, qui était l'objet de cet article, nous sommes déjà arrivés au foie gras. Je cite ensuite un exemple de l'utilisation du mot foie gras chez Buffon. « Souvent, les oies engraissées auront le foie plus gros que tous les autres viscères ensemble, et ces foies gras que nos gourmands recherchent étaient aussi du goût des Apicius romains. » le foie gras, est maintenant la référence à un gastronome de l'Antiquité romaine. Nous sommes déjà entrés dans cet exposé, et vous allez voir comment. Mais ça se développe encore lorsque Littré nous fait l'étymologie du mot foie gras. Et là, il y a un exercice extrêmement périlleux. En effet, Littré nous renvoie au latin ficatum. Or, ficatum, en latin, c'est ficus, c'est la fille. Autrement dit, pour Littré, il y a une expression qui associe le foie à la figue, qui s'appelle jégure ficatum. Donc, en fait, le foie en français aurait dû dériver de jégure, qui voulait dire le foie chez les latins. Or, exercice exceptionnel, et quelque chose qui se produit, à mon avis, pratiquement jamais en matière d'étymologie, le mot foie va dériver non pas du mot foie latin, mais d'un mot qui lui était associé, qui était la fille. Ce mot qui était chez les latins un terme de cuisine, donc fécure ficatum, c'est un terme de cuisine, il est devenu dans toutes les langues romanes le nom du foie, et il a fait disparaître complètement le nom propre d'origine, qui était le mot jégure. Vous avez là quelque chose d'assez étrange, et à travers le Littré, nous sommes partis du foie. Nous sommes passés au foie gras, du foie gras nous sommes passés au foie gras à la figue, nous avons cité Apicius, et vous allez retrouver tout au cours de mon exposé des éléments de ce préambule qui démontrent bien que c'était tout à fait prémonitoire de lire l'article du Littré pour, j'allais dire, parler du foie gras. Alors, après cet exercice donc qui est de l'ordre de la lexicologie, entamons. Bien, alors le foie gras, nous allons aborder le thème de l'histoire du foie gras, donc la partie foie gras d'hier. C'est une longue histoire, et ensuite nous abordons le foie gras d'aujourd'hui, qui sera une présentation sous forme de tableau de la réalité de ce qu'on peut appeler la filière foie gras en France dans les années 2020. Voilà. La longue histoire, elle se divise en trois parties. Elle démarre par l'Antiquité, elle se terminera par la Renaissance à nos jours, et entre les deux, selon l'expression de Silvano Cerventi, qui est un écrivain spécialiste de la gastronomie qui est franco-italien, une période de 1000 ans d'existence incertaine. Sur la droite, je vous ai fait un petit clin d'œil avec la préhistoire, vous avez là une magnifique oie, c'est l'oie de la grotte de Cussac, mais je n'évoquerai la préhistoire qu'à travers cette gravure. Nous allons démarrer tout de suite avec l'Antiquité, et en particulier l'Antiquité égyptienne, ça recommence, Merci, Michel. Merci, Michel. Bien, nous sommes en Égypte. Une image incontournable, les oies de Meidoun, au musée du Caire. C'est un tombeau qui date de 2700 avant Jésus-Christ. Ces oies de Meidoun font partie d'une grande fresque sur laquelle va apparaître quelque chose qui a un rapport direct avec notre sujet. Vous avez au milieu, au niveau de milieu central, vous avez un certain nombre d'individus qui tirent un filet, et ce filet représente une scène. Avec ce filet, on aborde le problème de la capture des animaux, et c'est vraisemblablement des canards que je désigne avec la flèche ici qui ne fonctionne pas, donc je vais le faire autrement. Il faut que tu me mettes en route la flèche, parce que sinon j'en sortirai pas. Merci, Michel. Préparation. Alors, toujours dans cette iconographie égyptienne, vous avez ici, dans le tombeau de Ti à Saqqara, qui se trouve au musée du Louvre, une scène parfaitement explicite où l'on voit une scène de préparation de l'alimentation pour les oies et de gavage des oies. Plus précisément sur celle-ci, vous avez en haut un petit récipient qui correspond au récipient qui reçoit. Alors, ça va devenir difficile pour moi, mais c'est pas grave. Vous avez ici un récipient. Ce récipient contient des petites boulettes, et vous avez deux esclaves qui sont en train, pour le premier, d'introduire une boulette, pour le second, non seulement d'introduire une boulette, mais de favoriser le déplacement de cette boulette dans l'œsophage du canard, et donc on est typiquement dans une scène de gavage. Nous avons vu nos esclaves en train de gaver les oies, on va donc obtenir des belles oies grasses, vous les avez ici sur ce dessin du tombeau de Mereruka. Et quand on regarde ces oies grasses, on peut facilement imaginer ce qu'elles sont devenues quelques milliers d'années plus tard. Et voilà, nous y sommes, cette fois c'est bon. Et nous sommes maintenant devant l'équivalent d'un panier d'oies grasses. Nous sommes aujourd'hui au marché traditionnel de Samatan dans le Gers. Vous voyez la continuité qui existe entre une représentation sur un tombeau égyptien et une scène d'un marché agricole dans le Gers aujourd'hui. Voilà ce que on pouvait dire sur l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte nous présente essentiellement des gravures, des images, mais qui sont tout à fait explicites sur le gavage. La Grèce. Alors, pour la Grèce, il n'y a plus la même iconographie. On sait que les Grecs étaient des éleveurs accomplis, et dès le temps de Périclès, ils connaissaient bien les oies. Vous avez ici la représentation d'un enfant à l'oie qui est au musée du Louvre et qui est d'après un bronze de Béotos de Calcédoine, d'un sculpteur grec qui a disparu. Dans l'Odyssée d'Homère, Pénélope, en songe, compare ses prétendants aux 20 oies de la cour royale. Mais hélas, les traités d'agriculture grecque de la période classique, qui auraient pu faire référence au foie gras, ont disparu et les artistes grecs ont préféré la beauté des corps à la représentation des oiseaux de basse-cour ou de ceux qui en avaient la charge. Toutefois, un élément de philologie nous permet de faire la liaison avec le fameux jegur ficatum des Romains. Jegur ficatum, on a vu foie, figue. Or, les linguistes se sont rendus compte que c'était la transcription du grec épars soukoton. Ça veut dire que chez les Grecs, on associait déjà le foie, épars, hépatite, hein, c'est l'origine grecque pour le foie, et soukoton qui veut dire la figue. Donc il y a quelque chose là qui est assez troublant. Or, si les Grecs ont transmis aux Romains cette association foie et figue, comme les Grecs ont transmis énormément de choses aux Romains, on peut imaginer qu'ils leur ont également transmis le foie gras, le mode de production du foie gras et de la consommation du foie gras. C'est chez un auteur romain, quelques siècles plus tard, que l'on trouve la première référence au gavage chez les Grecs. Donc il faut attendre que des Romains rendent compte d'expériences grecques pour avoir quelque chose qui nous fait parler du gavage chez les Grecs. Et Palladius, dans son ouvrage De Re Rustica, je lis, « Les Grecs, pour engraisser les oies, font tremper dans de l'eau chaude deux parties de gruau et quatre parties de son et leur donnent ainsi cette nourriture à discrétion. » Voilà ce qu'on peut dire sur la Grèce. C'est donc relativement peu de choses, mais il y a eu transmission, vraisemblablement, entre l'Égypte et Rome via les Grecs. Nous sommes à Rome. Alors là, il y a une abondance d'écrits relatifs aux oies et au foie gras. Tous les auteurs qui ont traité des questions agricoles s'étendent largement sur l'élevage de l'oie, sa nourriture, sa reproduction et son engraissement. On peut citer Caton, Varron, Columelle, par exemple. Il précise les conditions les plus favorables à la production de foie. Parlant ainsi des oisons, il dit « Par la suite, lorsqu'ils ont 4 mois, on destine les plus grands d'entre eux à l'engrais, parce que c'est l'âge que l'on regarde comme le plus propre pour les engraisser. » Palladius, que nous avons cité il y a quelques minutes, affirme que le gava se conduit pendant 20 jours consécutifs à la suite d'une préparation à l'engraissement d'une 30aine de jours. Cette description correspond tout à fait à une organisation qui est encore valable aujourd'hui. Il faut préparer l'oie au gavage pendant un certain nombre de semaines et ensuite on va la gaver pendant 3 semaines pour obtenir le foie gras. Donc ces techniques sont très proches de celles admises aujourd'hui. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, on peut lire « Les Romains ne connaissaient les oies que pour leur foie. Le foie devient très gros dans les oies que l'on engraisse et tiré de l'animal, on l'augmente encore en trempant dans le lait miellé. » Pline, un autre auteur romain, a essayé d'identifier un inventeur du foie gras. Il cite 2 noms, Scipius Metellus Consul et le chevalier Marcus Seius. Pline nous apprend, par ailleurs, que les oies considérées comme les meilleures pour l'engraissement proviennent de la Morinie. Vous savez tous ce qu'est la Morinie ? La Morinie, c'est l'Artois d'aujourd'hui. On a du mal à imaginer le voyage de troupeaux d'oies parcourant à pied plus de 1000 kilomètres pour atteindre Rome. Mais les Romains avaient de grandes capacités et ils savaient résoudre ce genre de problème. Là, nous avons parlé essentiellement des écrits en liaison avec l'agronomie. Les poètes latins, de leur côté, dans un autre registre, nous apportent des témoignages indiscutables quant à la consommation du foie gras comme mets de luxe chez les riches romains. Ainsi, Juvénal, dans sa Satire 5, je cite, « Devant le maître, fume un énorme foie d'oie, une volaille aussi grosse qu'une oie, un sanglier. » Martial, dans un épigramme, Xenia, énonce une liste d'aliments parmi lesquels le foie gras. Il commente « Regarde comme ce foie se gonfle plus gros qu'une oie grasse. Dans ton étonnement, tu diras « Dis-moi donc, où a donc grandi ce foie ?» C'est bien à Rome que l'on peut trouver également les textes avec une des premières recettes de foie gras. Elle est transmise par Marcus Gaius Apicius, l'Apicius qui était annoncé dans l'article foie du dictionnaire donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Apicius se réfère à la méthode de Scipius Metellus déjà évoquée et il nous précise que le foie est macéré dans le garum, puis assaisonné d'un mélange d'épices et enfin enveloppé d'une crépine avant d'être rôti. Donc un foie macéré dans une crépine qui est ensuite rôti à la broche. La broche étant un des modes de préparation des viandes ou dérivés les plus communs à l'époque. Vous avez ici une représentation du De Re Culinaria d'Apicius avec, alors on va faire une tentative mais sans conviction, si. Avec à gauche ici le facsimilé d'un parchemin du monastère carolingien de Tours, nous sommes au 9e siècle, et vous avez ici à droite une édition de 1541, une édition à Lyon du même livre d'Apicius, les 10 livres de la cuisine d'Apicius. Voilà pour l'Antiquité. Alors, j'ai eu tort de quitter mon truc, le voici. Voilà. Après l'Antiquité, la période de 1000 ans dite d'existence incertaine, que j'ai annoncée tout à l'heure. Au milieu du 5e siècle, la belle harmonie du monde méditerranéen est rompue par l'influence progressivement dominante des barbares. De nouvelles élites apparaissent, et il est vraisemblable que l'art de vivre, qui avait favorisé luxe et raffinement, y compris en manière de gastronomie, ne s'est pas effondré. Mais les traces écrites précises sont rares. Des auteurs byzantins et arabes, en préservant les savoirs des anciens, n'ont pu qu'évoquer la pratique du gavage et la consommation du foie gras. En l'absence de références incontestables, on peut faire l'hypothèse que les aristocrates byzantins n'avaient aucune raison de renoncer au foie gras. Ainsi, au Xe siècle, sous le règne de Constantin VII, un traité d'agronomie, les Géoponiques, que vous avez à l'écran, consacre un chapitre à l'oie et à l'objectif, je cite, de faire devenir de grands foies. Vous avez une édition de 1541 à Lyon également des Géoponiques à gauche, et vous avez à droite une édition récente qui nous montre que ce genre d'ouvrage fait l'objet toujours de rééditions. C'est une édition savante des Géoponiques d'il y a quelques années. À l'autre extrémité du monde méditerranéen, au sud de l'Espagne, un agronome sévillant, Ibn al-Havan, dans son monumental livre de l'agriculture qui se réclame à la fois d'une tradition orientale et des théories des anciens, pose un jalon de cette histoire incertaine. Il livre le secret pour faire grossir les foies de canard avec des pâtons à base de sésame grillé et de plantes potagères. Nous sommes fin XIIe, début XIIIe siècle. De là à imaginer que du sud de l'Espagne, le foie gras de canard cheminera vers le sud-ouest de la France au fil des siècles, pourquoi pas? À la même époque, à Bologne, l'agronome Pietro de Crescenzi assure le lien avec la tradition antique du foie gras en faisant référence à Palladius, que nous avons déjà cité. Par ailleurs, la littérature médicale, conformément aux enseignements de Galien, en associant nature et propriété des aliments, perpétue le souvenir du foie gras en tant que remède. Il en est ainsi chez Arnaud de Villeneuve, célèbre médecin catalan du XIIIe siècle, ou chez Michel Savonarole, médecin padouan du XIVe. Ce dernier recommande le foie d'oie plus tendre et de meilleur goût que ceux des autres volatiles, spécialement les oies qui ont été engraissées avec du millet ou sa farine mélangée à du lait. Un dernier indice se découvre dans un écrit de Bartolomeo Sacchi, plus connu sous le nom de Platine. Nous sommes en 1474, il est bibliothécaire du palais pontifical. Le pape à cette époque, c'est Sixte IV, c'est l'initiateur du commerce des indulgences. Et dans cet ouvrage, il évoque le foie d'oie, honnête volupté, surtout lorsqu'il a macéré dans le lait ou en l'eau miellée. Belle référence au foie gras, proche d'un chef de la chrétienté et au terme de cette longue période d'une histoire incertaine. Abordons maintenant la période qui va de la Renaissance à nos jours. À partir du XVIe siècle, partout en Europe, les références au foie gras se font de plus en plus explicites. Dans la maison rustique de 1556, les frères Liébeau exposent la méthode pour produire, je cite, « grand foie aux oies ». En 1570, dans son ouvrage « Opéra », un cuisinier italien, Bartolomeo Scappi, qui exerçait son art au palais pontifical de Pie V, les papes étaient quand même des gens qui savaient choisir leur cuisinier, il nous parle de foie de 3 livres, soit environ 500-800 grammes, que lui fournissent les Juifs. Juifs et foie gras, au XVIe siècle, après Hébreux d'Égypte et foie gras dans l'Antiquité, il y a des proximités sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Bartolomeo Scappi précise le déroulé d'une recette, trempage dans le lait, mise sous crépine, cuisson à la broche, service chaud avec du jus d'orange amer. Il existe même une option, coupage en tranches, farinage, pour cuisson au sein doux à la poêle. C'est notre foie de canard poêlé. En Allemagne, en 1581, un livre de cuisine de Max Rumpolt paraît. Ce cuisinier de la cour de Bohême évoque une recette de foie d'oie rôti, là encore dans une crépine de veau, et donne ailleurs une précision qui lève toute ambiguïté, foie, foie gras. Je cite « Et j'ai fait rôtir le foie d'une oie engraissée par les Juifs de Bohême, qui pesait 3 livres et quelques onces. » Un peu plus tard, au début du XIIe siècle, nous sommes dans la France d'Henri IV, dans son célèbre, au début du XVIIe siècle, pardon, je revenais un petit peu en arrière, mais vous suivez, vous avez un grand mérite. Un peu plus tard, au début du XVIIe siècle, nous sommes dans la France d'Henri IV, dans son célèbre théâtre de l'agriculture et ménage des champs, Olivier de Serres recommande les foies de volatiles, cette partie la plus requise de la bête. Il préconise l'utilisation du froment et de l'orge, comme cela se pratique en Gascogne, où, dit-il, ce mesnage est familier. Cette pratique est familière. Au début du XVIIe siècle, dans son ouvrage « Economica del cittadino », l'italien Vincenzo Tarara observe que les oies gouvernées par les Juifs ont un foie très grand qui parfois, comme j'ai pu le voir, est aussi large qu'une assiette. Au début du siècle suivant, c'est-à-dire au début du XVIIIe, le savant hongrois Matthias Bell, dans son encyclopédie agronomique, signale le grand foie des oies que les Juifs de son pays obtiennent grâce à des procédés longs et compliqués, et je le cite, « trop fatigants pour les chrétiens ». Pourtant, malgré cette pénibilité, les paysans de ces régions danubiennes vont adopter ces techniques d'élevage et de gavage, et la Hongrie deviendra un des premiers producteurs et exportateurs de foie gras du monde, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, dans les campagnes françaises, on assiste à un renouveau des pratiques de l'agriculture et de l'élevage. Dans le sud-ouest, le remplacement du millet par le maïs, comme aliment d'engrais des volailles, va permettre au foie gras de trouver une place significative. Un éleveur de Carcassonne, le sieur Gallet, invente l'embuc, cet entonnoir avec poussoir, l'ancêtre des machines à gaver modernes. Vous avez sur la gauche un petit schéma qui montre de façon tout à fait précise l'opération de gavage avec le déplacement dans l'œsophage grâce à la pièce métallique qui a été introduite de la pâtée ou du pâton ou du maïs qui va être poussé jusqu'au jabot. Jabot dont l'étymologie d'ailleurs est la même que celle de gaver. Ça vient d'un mot gaulois qui est gaba, qui a donné à la fois le gavage et le jabot. La spécificité des oies et des canards, c'est d'avoir ce cou très long, cet œsophage très souple, qui est favorable à l'introduction d'aliments de façon naturelle ou artificielle. Une production rationalisée va répondre à la demande croissante suscitée par le succès grandissant des pâtés et terrines au foie gras, des pâtissiers de Toulouse, Périgueux ou Strasbourg. À cette époque, on peut lire dans de nombreux livres de cuisine édités généralement dans l'anonymat des recettes comportant du foie gras en ragoût, en crépine, à la cendre, à la dauphine. L'association foie gras-pâté est avérée pour la première fois dans un de ses ouvrages anonymes, Le cuisinier instruit. Je cite « Le foie gras, on en met dans les farces pour les rendre plus délicates, et l'on fait de cette farce des rissoles, des petits pâtés et autres ouvrages. Petits pâtés. Dans la tradition des corporations, ce sont les pâtissiers qui réalisent les pâtés ou récipients de pâtes contenant de la viande, du poisson, des farces et donc maintenant des farces au foie gras. Les charcutiers, les cuisiniers, les traiteurs et quelques simples particuliers suivront cette mode nouvelle. En 1772, dans le dictionnaire portatif de cuisine, d'office et de distillation, on trouve une recette très précise d'un boudin au foie gras donnant les proportions des ingrédients, ce qui est rare à cette époque en matière de livres de cuisine. Et donc, grâce à ces proportions, il est parfaitement encore réalisable aujourd'hui. Les références de poids sont le quarteron, qui vaut 122 grammes, la livre, 489, et en volume, la pinte de 0,476 litres. Donc, vous avez là un boudin de foie gras dont je vais vous donner la recette que vous pourrez faire chez vous. Prenez un quarteron de chair de porc, une livre de foie gras, autant de blanc de chapon, des fines herbes, du sel, du poivre, de la muscade, de la girole en poudre, de la cannelle, 6 jaunes d'œufs, 2 pintes de crème, hachez les viandes et les herbes, de ce hachis formez vos boudins que vous ferez cuire dans du lait avec sel, citron, citron vert, laurier, ensuite vous faites griller et vous servirez avec un jus d'orange. Il y a une grande modernité dans cette recette. Nous sommes là dans un livre de cuisine de 1772. Dans cette période, pour cette période, certains historiens du foie gras s'accordent quant à l'apparition de 3 recettes ou références de pâté de foie gras. En 1769 à Nérac, chez le cuisinier Taverne, vers 1770 à Périgueux, chez Courtois, et en 1778 à Strasbourg, chez un pâtissier cuisinier dénommé Clause. Les deux premiers, Nérac et Périgueux, s'inscrivent bien dans une tradition de pâté réputée et en particulier à base de perdrix. À Nérac et à Périgueux, il y avait une spécialité de pâté de perdrix. Mais la référence au foie gras, souvent associée à la truffe, est vraisemblablement le résultat d'une opération récente, une opération, disons, de lobbying, conduite par Kurnansky, qui est le prince des gastronomes, c'est un homme qui s'appelait Edmond Saillant. Ce dernier, à travers de nombreux articles dans la presse gastronomique, crée sans doute la référence au foie gras pour notre région sud-ouest. La naissance du pâté de foie gras dans le sud-ouest reste incertaine. Notre orgueil dut-il en souffrir? C'est bien à Strasbourg, en cette fin de 18e, qu'apparaît de façon incontestable le premier pâté de foie gras, selon les sources, soit en 1762, soit en 1780, soit en 1784. Vous avez ici, sur la droite, le personnel central de cette opération, qui est le maréchal de Contades, nous allons voir quel rôle il a joué, et à gauche, un pâté de foie gras, fait aujourd'hui par un célèbre cuisinier alsacien à la manière de celui du XVIIIe siècle. Nous sommes là dans l'histoire bien connue de Clause, cuisinier du gouverneur de l'Alsace, qui était le maréchal de Contades. Ce cuisinier Clause confectionne un pâté fourré de foie gras, entouré d'une farce, pour son maître. Ce dernier est impressionné par cette préparation nouvelle. Il demande à Clause de reproduire des pâtés semblables à l'intention de Louis XVI. Il semble que le roi, séduit par ce pâté à la Contade, manifesta sa reconnaissance en octroyant au maréchal une terre en Picardie et 20 pistoles au cuisinier. J'ai oublié de vous montrer les livres de cuisine de l'époque qui font référence au foie gras, qui sont maintenant des livres qui font partie des bibliothèques des spécialistes de la collection des livres de cuisine. Vous avez ici, dès 1814, l'art de cuisiner, 1815, le pâtissier royal de Carême, qui est un grand nom de la gastronomie, en 1830, le cuisinier Durand, en 1856, la cuisine classique de Dubois et Bernard. En fait, non seulement le foie gras se répand par des écrits, par des pratiques, mais même il y a des allusions dans la presse gastronomique. Ainsi, dès 1804, Grimaud de la Reynière, le goût et milieu de l'époque, dans son Almanach gourmand, indique qu'il est possible de se procurer des pâtés de foie gras dans plusieurs boutiques parisiennes, dont Corcelet, qui existe toujours en 1804. Donc, la place du foie gras s'étend et s'impose dans la cuisine, elle se diffuse en Europe auprès de l'aristocratie, et bientôt, grâce à l'industrie hôtelière et touristique, au palace et à leurs chefs français. Un nouvel axe de développement est rendu possible grâce à l'application de la pertisation, la conserve, puisqu'on va pouvoir s'affranchir ainsi de la saisonnalité du produit, et certains artisans travaillant le foie gras vont se saisir de ce procédé, ils deviendront ainsi des conserveurs, et c'est encore à l'Est que les choses vont démarrer. Vous avez ici un texte qui est extrait du grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas, et qui fait référence au foie gras célèbre de l'époque, et ce n'est pas le foie gras du Périgord, c'est encore Strasbourg. On sait que le foie gras de Strasbourg est réputé fournir le roi des pâtés. L'opération par laquelle on obtient le foie gras consiste principalement à engraisser les oies de manière à produire chez eux une tuméfaction, le mot n'est pas très heureux, de cet organe. Le foie d'une oie soumise au traitement que leur font subir les engraisseurs de Strasbourg arrive à être jusqu'à 10 fois, 12 fois plus gros que nature. Donc, voici la naissance des entreprises significatives dans la transformation du foie gras qui vont laisser des noms, qui vont créer des ateliers, qui vont créer des marques. Et vous avez en Alsace, en 1803, le premier d'entre eux, c'est Arzner, qui existe toujours. Quelques années plus tard, Bruck, Brendeux, et vous avez en 1827, 12 fabricants en Alsace, une vingtaine en 1850. Dans le sud-ouest, la bonne nouvelle, c'est que la première origine actée, c'est à Sarlat, une maison qui s'appelait Massoulier-Richard en 1812. En 1825, à Brive, Bizac, bien connu. En 1840, à Périgueux, La Salvetat, La Forêt, Aubier. La Forêt, Aubier, des noms qui étaient encore existants il y a quelques dizaines d'années. En 1850, à Éos, Sarade. En 1875, à Cahors, Viviès, qui deviendra Rougier. Et en 1892, à Sarlat, Del Perra. Voici la naissance des entreprises de foie gras. Alors, il y en a deux qui ont pour moi un sens un peu particulier. Il y a 1850 à Éos, Sarade, parce que Sarade d'Éos s'est ensuite transporté dans les Landes. Et c'est là que, quelques cent et quelques années plus tard, je suis entré en foie gras. Et je suis sorti de chez Sarade en 87, après une dizaine d'années, pour rejoindre Rougier, qui de Cahors, après avoir absorbé Viviès en 1875, est venu à Souillac d'abord, à Calviac ensuite, et à Sarlat enfin. En 1873, Henri Desfarge, un ancien président du syndicat des fabricants de conserves du Périgord et membre de la Société historique, publie une histoire du foie gras qui se termine à la fin du 19e, c'est-à-dire au point où nous en sommes de cet exposé, et j'avoue avoir beaucoup utilisé ce livre. Avant d'aborder la suite de mon exposé, le foie gras d'aujourd'hui, une remarque s'impose et qui éclaire un aspect majeur de l'histoire du foie gras, c'est la proximité constante des Juifs avec notre produit. Dès le début en Égypte, l'implication des Hébreux esclaves avec le gavage est vraisemblable. Par la suite, le savoir-faire des Juifs a fait le tour de la Méditerranée et on a vu comment les Grecs, puis les Romains, ont apprécié cette spécialité. À la fin de l'Empire romain, cette tradition est incertaine. Voilà. Sauf dans les régions danubiennes et rhénanes. Là, les Juifs askénazes, privés de graisse de porc, avaient des difficultés pour se procurer les matières grasses indispensables dans ces régions froides. La graisse d'oie, en quelque sorte, sous-produit du gavage, a comblé naturellement, efficacement, ce manque. Petit à petit, les non-juifs se sont intéressés à cette spécialité juive et se la sont appropriée. Vous avez ici sur cette carte un rappel des migrations à la fin de l'Empire romain. Vous voyez les migrations essentiellement vers l'ouest. À l'est, il y a juste quelques migration vers la région du Tigre et de l'Euphrate, sinon les Juifs vont à travers la Turquie, la Grèce, vers le Danube, ou via Rome, vers la Gaule et l'Alsace, ou par la Méditerranée sud, via le sud de l'Espagne et la région arabo-andalouse, et j'ai fait allusion tout à l'heure à la possibilité, à partir de cette région, de transfert vers le sud-ouest de la France. Autre petit clin d'œil à ce rapport entre les Juifs et le foie gras, une image à gauche qui représente l'examen d'une oie grasse par un rabbin qui vérifie la conformité aux lois alimentaires du judaïsme, et aujourd'hui la référence à un produit cachère de foie gras. Vous avez ici un produit fabriqué par la Berry à Saint-Géour-de-Marenne à destination de la communauté pratiquante juive à travers une société qui s'appelle King Salomon. C'est un foie gras cachère. Ça clôt cette réflexion sur le rapport entre les Juifs et le foie gras. Il était une fois le foie gras d'hier, mais le foie gras d'hier, on l'a vu. Maintenant, on va voir le foie gras d'aujourd'hui. Alors, le foie gras d'aujourd'hui, à grands traits, on va exposer les problèmes de production, de transformation, et puis évoquer, bien sûr, les perspectives. Alors, le foie gras d'aujourd'hui, on peut le résumer ainsi. De grandes entreprises, souvent appartenant à des groupes financiers privés ou coopératifs, qui s'appuient en amont sur des bassins de production très spécialisés sur l'importation, mais également des circuits courts qui font appel en particulier aux producteurs transformateurs. Ce monde du foie gras d'aujourd'hui sont des fabrications très diversifiées, utilisant de nombreuses techniques, certaines innovantes, et adaptées à tous les circuits de distribution d'un marché intérieur et de l'export. Le foie gras d'aujourd'hui, ce sont de nouveaux modes de consommation qui ont permis la croissance, voire une certaine banalisation du foie gras. C'est en même temps que naissent des interrogations quant à la pertinence de perpétuer la pratique du gavage, seul moyen jusqu'à ce jour pour obtenir des foie gras. Donc voilà le cadre général. Pour en arriver là, quelques jalons. On va parcourir quelques années ou quelques groupes d'années. À partir des années 1950, les techniques de production avicole sont bouleversées, une vraie filière voit le jour et les structures coopératives se développent. De plus en plus d'industriels cherchent à assurer leur approvisionnement en faisant appel à l'importation de foie de pays traditionnellement exportateurs, la Hongrie, la Bulgarie, mais également en profitant de nouvelles origines, la Pologne et Israël. Quelque temps plus tard, à partir des années 60, l'appel à une très forte production de foie gras va provoquer un déséquilibre avec la production de viande. Car vous savez bien que quand on produit un foie gras, on produit également 2 à 3 kilos de quelque chose qu'on a l'habitude d'appeler le paletot. Or, jusqu'à ce que le foie gras prenne un développement fulgurant, l'équilibre du marché entre la fabrication des foies et la production du sous-produit qui était la viande, était assez harmonieux. Il y avait deux types de produits. Il y avait d'un côté les cuisses, qui allaient vers le confisage, et de façon très organisée. C'est un produit qui est bien adapté, c'est une portion individuelle tout à fait raisonnable. Mais il y avait un autre produit, à l'époque, qui n'était pas le magret, qui était l'aile. Et l'aile, c'était la réunion de ce qu'on appelle maintenant le magret avec le manchon. On parlait donc, quand on découpait un paletot, d'un côté les cuisses, de l'autre côté les ailes. Et l'essentiel des ailes, comme l'essentiel des cuisses, faisait du confit. Or, le développement du foie gras a produit un déséquilibre qui fait qu'il y avait trop de confit, et donc on allait vers quelque chose qui allait être une impossibilité de continuer à gaver, produire du foie, en ayant une viande en surproduction. C'est à ce moment-là que dans le Gers, et là l'histoire est actée, un cuisinier qui s'appelle Daguin a eu le trait de génie de séparer le manchon et la partie de la poitrine qu'on a appelé le magret, et d'imaginer que ce magret, au fond, était un produit qui avait une autre destination que le confisage, qui pouvait être travaillé comme une espèce de grillade. Alors, ça paraît anecdotique, et pourtant, c'est révolutionnaire à l'époque. J'ai connu ce moment, et c'est le moment où on avait de telles interrogations sur les viandes que, sans le magret, on aurait été limité dans le développement du foie gras. Donc, voilà quelque chose de très important qui s'est passé dans les années 60. Dans ces mêmes années 60, quelques fabricants, en fort développement, accroissent leurs importations en même temps qu'ils entreprennent d'exporter, non seulement en Europe, mais sur des nouveaux marchés plus exotiques comme le Japon ou les USA. Quelques années plus tard, à partir des années 70, la filière foie gras va vivre sa révolution copernicienne, je n'hésite pas, avec la découverte de l'éviscération à chaud, qui bientôt, associée à la stabilisation des foies par surgélation cryogénique, va améliorer considérablement leurs aptitudes à la transformation, au rendement et à la qualité des produits finis, mais aussi l'aboutissement d'une désaisonnalisation déjà fortement initiée au niveau de l'élevage. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que jusqu'à ces années-là, quand on sacrifiait une oie ou un canard, on la laissait reposer. Avant le frigo, dans les années au 19e siècle ou au 18e, on accrochait les oies dehors, et c'est pour ça qu'on ne faisait essentiellement ces opérations qu'en hiver. Mais plus tard, quand le frigo est arrivé, on mettait les oies ou les canards pendant 24, 48, voire dans certains cas avec les week-ends, 72 heures, dans un frigo. Et puis, on extrayait le foie à ce moment-là, et le foie était mis dans le circuit de la transformation. Je vais vous expliquer que c'est à ce moment-là qu'il se passait des choses qui étaient relativement défavorables, avec lesquelles on vivait, qu'on supportait, mais l'éviscération à chaud a mis en évidence qu'il y avait d'autres voies et qu'on pouvait obtenir une transformation des foies avec une économie et une pratique beaucoup plus adaptées aux produits. Voilà, c'est les années 70. Alors, pour vous éclairer un peu l'éviscération à chaud, donc en deux mots, on va parler un petit peu, c'est quoi gaver un animal? Ben, c'est transformer en fait l'amidon du maïs en acide gras, en graisse, et là, le foie fait la synthèse de tout ça, et il distribue ensuite sur le foie gras qui stocke, et ce qui n'est pas stocké dans le foie gras est stocké dans le paletot, dans la carcasse, et va donner de la graisse. Vous avez ici un exemple de l'évolution du poids d'un foie de canard pendant le gavage, sur une période d'une douzaine de jours. Vous avez au départ, à gauche, un foie de moins de 100 grammes, qui est constitué pour l'essentiel d'eau, et bien entendu un peu de protéines, un peu de glycogène, un peu de sels minéraux, des phospholipides, mais l'essentiel c'est de l'eau. Et petit à petit, vous voyez croître dans la partie supérieure que vous voyez à 12 jours, la partie grasse, c'est-à-dire qui représente les deux tiers à ce moment-là du foie, donc sur 450 ou 500 grammes, vous avez 300 grammes de graisse qui est là, tenue dans le tissu d'origine. Et donc tout ça, ça ne se fait pas de façon très simple, parce que c'est quelque chose d'assez fragile d'essayer de faire tenir dans un foie de 100 grammes, 300 ou 400 grammes de graisse. Tout ça, ça se passe au niveau d'un système vacuolaire. Vous avez de la graisse qui est entourée par des membranes. Ces membranes, elles sont protéiques, elles sont également tenues par des systèmes phospholipiques. Et vous avez ici l'exemple de la paroi d'un vacuole de graisse. Vous avez la paroi, vous avez le système phospholipidique qui fait tenir tout ça, et vous avez à droite la destruction de cette belle structure protectrice et qui permet de tenir le globule gras. Et cette destruction, elle se fait post-mortem, et en particulier dans ce fameux temps qui va séparer le sacrifice de l'utilisation après 24, 36, 48, voire 72 heures. Donc l'éviscération à chaud, elle permet, après l'extraction, d'avoir un foie qui est toujours dans un état physiologique de tenue du rapport entre les protéines, les phospholipides et la graisse stable, et l'application de traitement thermique ne va pas complètement détruire le système et permettre l'évacuation de la graisse. C'est ce qu'on appelait autrefois la fonte du foie. Et on savait que dans certains cas, quand on travaillait un foie, il y avait énormément de graisse qui en sortait, ce qui était quand même un paradoxe, parce qu'on s'était crevé pour rentrer de la graisse dans des foies, et la première opération qu'on faisait, c'était de la faire ressortir. Il y avait là quand même quelque chose qui ressemblait à une histoire de fou. Et bien cette histoire de fou, elle est terminée depuis l'éviscération à chaud. Donc c'était bien une révolution copernicienne. Nous sommes là dans les années 70. À ce moment-là également, va se développer dans le monde de la restauration un nouveau concept de cuisson sous vide, rendu possible grâce au progrès des films alimentaires et à la banalisation des matériels nécessaires à la conduite de ces opérations de stabilisation. Les applications au foie gras ouvriront de considérables opportunités pour tous les transformateurs, qu'ils soient agriculteurs, transformateurs, artisans, voire industriels. Alors, deux illustrations de cette chose. Vous avez ici à gauche un petit rappel de ce qu'est un film de cuisson thermocélable, c'est-à-dire un ensemble à qui on demande de permettre certaines opérations, on lui demande de se souder, on lui demande de permettre la cuisson, on lui demande d'être étanche, on lui demande d'empêcher peut-être la lumière de venir. Donc ça suppose des films extrêmement sophistiqués, des multicouches, qui sont constitués d'éléments qui ont chacun un rôle à jouer dans ce panel de besoins du film. Vous avez le polyéthylène, polypropylène qui vont souder ou qui vont tenir l'ensemble. Vous avez le VOH qui est un ensemble qui va permettre une meilleure étanchéité au gaz. Vous avez par exemple l'aluminium qui peut être sur un opercule une façon d'empêcher la lumière d'atteindre un produit. Donc voilà, vous avez donc des films d'un côté, une technique sous vide. Vous avez à droite un foie gras. Il a été mis dans un film dit de cuisson. Il venait d'être éviscéré à chaud, vraisemblablement. Il va être mis en cuisson à 70, 75, 80 degrés dans un bain-marie. Et quand on va ouvrir la poche, 8 jours, 15 jours, 3 semaines après, ben on aura un foie qui aura été, d'une certaine façon, prêt à la consommation. Deuxième exemple, et tout ça, ça se décline, et ça évolue, et ça se sophistique. Et du film, on passe à des multicouches semi-rigides, à des barquettes. Et vous avez là deux exemples de présentation de foie qui vous sont familières et qui sont maintenant leaders dans les rayonnages de grande distribution. Vous avez à gauche une barquette d'Elpera et à droite, un petit clin d'œil toujours à nos Alsaciens, avec une coque dont l'intérêt est de redonner au foie qui a été mis à l'intérieur au moment de l'ouverture une forme qui rappelle le foie d'origine. Donc ce sont des barquettes plastiques demi-cuits. On explicitera un petit peu ces notions-là. Nous étions dans les années 70. À partir des années 80, le marché du foie gras accélère sa croissance grâce à des techniques d'élevage et de gavage de plus en plus normalisées et performantes et au choix du canard contre loi. En effet, à ce moment-là, un graphique un peu ancien, mais sur le principe, vous avez ici dans la période 2000-2010 le croisement de deux courbes. Vous avez le développement du canard là qui part de 15 000 tonnes et qui va vers les 20 000 en canard, et vous avez l'oie qui part de 600-700 tonnes et qui va vers 400. Donc vous avez l'oie qui régresse en France, le canard qui se développe. Tout ça, c'est lié au rapport entre le foie de canard, le magret de canard, l'arrivée des films, les cuissons sous vide, tout ça fait un ensemble qui fait que le canard devient de plus en plus l'animal de référence pour produire du foie gras dans des conditions économiques et technologiques satisfaisantes. Dans le même temps, les transformateurs accèdent à de nouveaux outils favorisant la sécurité alimentaire et les qualités objectives des produits, salle blanche, généralisation des démarches qualité et certification. Deux illustrations à gauche, une salle blanche d'une société très honorable de Sarlat, que j'ai bien connue. Et là, vous avez des ouvrières qui se livrent au moment de Noël au transfert de foie gras qui avait été préparé peut-être en janvier, en février, dans des boîtes, qui vont les sortir des boîtes et les rouler dans un papier d'aluminium, les remettre sous vide, et ça se vendra chez les traiteurs hôtes sous le nom de pain frais, entre guillemets. Hein. C'est pas tout à fait légal, mais ça s'appelait un peu comme ça. Donc pourquoi on peut faire ça? Mais parce qu'au fond, il n'y a pas de rupture entre une boîte étanche et un sac étanche, dans la mesure où on est dans une atmosphère exempte de germes. Donc voilà l'exemple d'une technologie qui permet des tas de choses et donc qui permet une industrialisation du foie gras dans des conditions sérieuses. À droite, vous avez un schéma d'une des techniques les plus répandues à partir de ces années-là pour encadrer la qualité dans les entreprises. C'est une méthode américaine qui s'appelle HACCP. Si vous le demandez, je vous dirai en anglais ce que ça veut dire. Sinon, c'est un ensemble, une démarche intellectuelle. Hein. Pour un processus donné, on identifie des risques, on identifie des endroits où il y a possibilité de pallier, on définit les niveaux à partir desquels il faut pallier, ensuite on définit des systèmes de surveillance qui comment va faire en sorte que tout ça s'articule bien, on définit les actions correctives, et puis on écrit tout ça. Il y a à la fois de la méthodologie de sécurité alimentaire et en même temps de la traçabilité. Tout ça à partir des années 80. Toujours dans les années 80, les PME familiales les plus importantes, de bonne notoriété, et pour certaines extrêmement rentables, vont bientôt intéresser des investisseurs ou groupes bancaires, ouvrant ainsi la période de restructuration de la filière, c'est-à-dire la restructuration d'usines et de producteurs en amont de ces usines. Voilà, si vous voulez, le passage entre ce 18-19e siècle, 19e disons, et aujourd'hui. Alors, tout ça, ça nous mène à un petit bilan aujourd'hui et ce qu'on peut appeler la filière foie gras aujourd'hui. Juste un petit rappel, c'est le moment de dire c'est quoi du foie gras du point de vue légal. Alors, je vous le lis. Le foie gras doit provenir exclusivement d'oies ou de canards gavés de façon à produire l'hypertrophie cellulaire graisseuse du foie. Les animaux doivent être complètement saignés et au moment de leur éviscération, les foies doivent être reconnues propres à la consommation, exemptes de toute anomalie d'origine pathologique. Un certain nombre de produits dont les noms vous sont familiers sont faits avec que du foie gras, voire un ajout, on va le dire. Alors, que du foie gras et des épices ou des aromates, c'est le foie gras entier. Une deuxième rubrique qui n'est pas toujours claire dans l'esprit des gens, c'est le foie gras. C'est en gros la même chose, sauf que on a le droit d'associer, j'allais dire, des morceaux venant de plusieurs foies différents. Et donc, c'est une espèce de mosaïque, mais qui ne contient que du foie gras et pas... Voilà. Ensuite, vous avez le bloc, qui est un mot qui vous est familier. Le bloc, ça n'est que du foie gras, mais pour provoquer l'émulsion qui permet de faire le bloc à partir de foie hachée, on a besoin d'eau bouillante, à la dire d'un matériel qui remue tout ça, qui est un cutter, et donc on a jusqu'à 10%, tout compris, entre l'eau et les épices dans un bloc de foie gras. Mais il n'y a pas de foie de volaille, il n'y a pas de porc, etc. Un bloc de foie gras, ce n'est que du foie gras, un peu dilué dans de l'eau, on va dire. Voilà, il était quand même bon de rappeler de quoi on parle. Alors, un petit coup d'œil dans le monde. Dans le monde, là c'est 2014, mais dans les grandes lignes, c'est toujours les mêmes proportions. Vous avez un pays qui domine tout ça, c'est 75-80%, c'est la France. Et vous avez deux pays européens importants, la Hongrie et la Bulgarie. Ensuite, quelques pays proches de France, Espagne, Belgique, un peu d'Ukraine, un peu de Chine, très peu de choses. Et vous n'avez pas sur ce camembert de 2014, vous n'avez ni Israël ni la Pologne, qui sont d'anciens producteurs, dont on a beaucoup parlé dans les années 90 jusqu'à 2000, mais qui ont arrêté complètement la production de foie d'oie ou de canard. Voilà ce qu'est la répartition mondiale. La France, bien sûr, c'est le pays du foie gras, on va le voir de nombreuses reprises. Du monde, passons à l'Europe. Alors, vous avez deux années ici, 2018 très récente et 2020. À gauche, en 2018, vous avez 24 500 tonnes produites en Europe, 22 600 canards, 1900 d'oies. Et pour mémoire, nous venons de tonnage en 94 qui était de l'ordre de 10 000, donc moins de la moitié. Et en 2012, après la phase de croissance qui a permis d'atteindre les niveaux auxquels nous sommes habitués maintenant, 19 000 tonnes en 2012. Ensuite, nous avons 2020. En 2020, il y a une chute globale au niveau de l'Europe. On en reparlera, on verra les raisons. Une vingtaine de milliers de tonnes, canard 18 000, oie 1400. Sur les deux représentations de l'importance des pays, ce que vous avez en jaune, c'est la France, qui est là encore entre 75 et 80 % de la production européenne. Et puis, deux grands producteurs européens qui sont la Bulgarie et la Hongrie, et le reste pour mémoire. Voilà. Voilà ce qu'est la production mondiale, ce qu'est la production européenne. Voyons maintenant la filière française à aujourd'hui. C'est quoi le monde du foie gras d'aujourd'hui? Alors, pour ce faire, deux tableaux essentiels qui vont définir la filière française. Une première partie qu'on va appeler l'amont, c'est-à-dire ce qui est autour de la production agricole, on va dire. Alors, la production agricole, ça commence bien sûr par de la génétique, de la sélection, quels canards et quelles oies sont développés dans les opérations d'accouvage. Il faut produire des oisons ou des canetons. Tout ça, ce sont des métiers très différents. Il y a 12 couvoirs en France. Il y a 34 millions de canetons qui sont produits. Il y a 500 000 d'oisons d'un jour. Et il y a autour de tout ça quelque chose d'important, c'est les fabricants d'aliments. Vous avez pour nourrir tout ça un chiffre qui est quand même faramineux, c'est 800 000 tonnes d'aliments. Alors, ça vous explique pourquoi tout à l'heure on parlera des grands groupes qui sont intéressés au foie gras. Les grands groupes coopératifs qui étaient des grandes coopératives essentiellement de maïs. Donc ça, c'était l'amont de l'amont, j'allais dire. Le cœur de l'amont, c'est la production. Alors, 15 000 tonnes, 14 000 de canards, toujours des chiffres qui montrent la prédominance du canard. C'est 3 500 producteurs et 10 000 emplois directs ou indirects. Voilà ce qu'est à aujourd'hui la... 100 000, pardon. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui la filière. Alors, pour illustrer cette filière, cette partie agricole, vous avez là une représentation idyllique d'un élevage de canards dans Chalosse. Il y a le même en Dordogne, bien sûr. Vous avez là des canards mulards qui vont être ensuite remis à des gaveurs. Les métiers sont séparés. Vous avez ceux qui font les poussins, ceux qui font les canards prêts à gaver et ceux qui feront le gavage. Donc là, ce sont des canards qui sont encore en liberté avant d'être conduits vers le gavage. Donc c'est l'élevage. Alors cet élevage, il concerne en France 5 régions essentiellement. Pour le canard, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Bretagne. Alors Midi-Pyrénées, Aquitaine sont les régions historiques. Et Poitou-Charentes, Pays de Loire sont des régions plus récentes. La Bretagne a toujours fait un petit peu de gavage. À droite, c'est l'Oise, il n'y a plus que 3 régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bretagne. Ça, c'est les grandes masses et les grandes régions. On va rentrer un petit peu dans les détails. Pour la France, ici sur l'ensemble du foie, vous voyez que l'Aquitaine représente en gros 50% de la production. Le Midi-Pyrénées, tout proche, un petit quart, tout petit quart. Et puis le reste, les Pays de Loire, qui sont des pays de producteurs émergents, Poitou-Charentes et Bretagne. Et tout ce qui n'est pas inclus là-dedans, c'est 3% répartis partout en France. Vous verrez, vous avez déjà vu, qu'il n'y a jusqu'à présent aucun point qui signale l'Alsace. Là, on passe à la production en 2010, c'est un peu plus ancien, mais c'est pour passer par département. Vous avez le dé de Dordogne, qui situe l'importance de la production dans un département donné. Vous avez l'Alsace en haut à droite, qui a à peu près la même proportion que l'Indre-et-Loire ou la Seine-Maritime. Et puis vous avez les grandes régions, les grands départements. Le plus grand de tous, c'est les Landes. Au sud des Landes, vous avez les Pyrénées-Atlantiques. Et à l'est des Landes, vous avez le Gers. Entre tout ça, vous avez le Lot-et-Garonne. Et vous avez le Lot, qui est au sud-est de la Dordogne. Voilà. Ensuite, on retrouve la Vendée, le grand département de production de canards qui a créé son bassin il y a une trentaine d'années, pas plus. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, le foie gras, c'est une affaire d'Ouest. C'est l'Ouest de la France qui est à aujourd'hui. Le monde du foie gras, il est à l'Ouest. Et à l'Est, rien de nouveau. Ce graphe, c'est pour vous parler de l'année 2017. Vous avez ici un graphe qui montre sur une vingtaine d'années la production de canards, mais cette fois exprimée en paletot, c'est-à-dire le poids des carcasses. Donc vous voyez, ça représente quand même entre 150 et 200 000 tonnes. Vous voyez, entre 2000 et 2005, c'est la continuité de la croissance abordée dans les années 1990, tout ça c'est en croissance. On obtient dans les années 2005 quelque chose qui ressemble entre 15 et 18 000 tonnes. Ça tient la route. Et puis en 2016, un premier accident. Et en 2017, la tuile. Et cette tuile, c'est ce qu'on appelle une catastrophe sanitaire industrielle. À la fin de l'année 2017, les volumes de foie gras disponibles en France se chiffrent à 13 000 tonnes, dont 10 000 tonnes dans l'Hexagone, soit 26% de moins que l'année d'avant et 44% de moins qu'en 2015. Vous voyez la fragilité, eh bien tout ça c'est lié à la fameuse grippe aviaire. Donc, on y reviendra, il y a là quelque chose qui est du domaine de prends garde. On vient de parcourir l'élevage, les régions d'élevage, etc. Alors on a des canards qui étaient heureux dans la nature, mais ils vont être mis à des gaveurs. Alors là, je vous présente des photos qui ne sont pas très critiques du gavage, je le reconnais. À gauche, c'est ce qui était préconisé il y a encore quelques années, c'est-à-dire la cage individuelle, qui était un système qui était très propice à réaliser l'opération de gavage, puisque l'animal est très accessible très facilement. Il y a des mouvements dont nous allons parler un petit peu plus tard, enfin tout de suite, là, tout de suite, c'est pas beaucoup plus tard, c'est maintenant. Ce qui est préconisé maintenant, ce sont des cages où les canards sont par groupe de 10, 12. Ils sont comme ça beaucoup plus heureux, ils peuvent échanger, bavarder, ils sont dans des conditions. Et ça, c'est un des éléments de réponse aux critiques que vous connaissez bien. Alors, le gavage, un petit, on n'y résiste pas, hein. Au début du XXe siècle, en Périgord à gauche, bon, c'est une carte postale qui est plutôt de la fin du XIXe, hein, mais bon, je pense qu'en 1905 ou 10, on aurait pu trouver ça en Dordogne, un embuc et une femme qui gave, parce qu'à cette époque-là, et en Dordogne, le gavage, c'est une affaire de femme. Mais, dans les années 20, en Alsace, c'est déjà une affaire d'homme. Et vous avez à droite ce magnifique barbu, qui est un Alsacien, qui est en train de gaver avec un matériel déjà très sophistiqué, qui est quelque chose entre la machine à coudre et, bon, on passe des meilleurs. Ça, c'est dans les années 20. Dans les années 30, vous avez ici la couverture d'une célèbre revue, Rustica, qui encourage à engraisser les foies pour Noël, 1930. On gave surtout en fin d'année parce qu'on ne sait pas trop garder la viande et les foies dans les périodes chaudes. En plus, la consommation, elle est saisonnalisée. Ce qu'on montre, c'est des oies et pas des canards. Et par contre, à droite, on fait une petite concession à la technicité. Et on n'a pas représenté là la gaveuse périgordine. On a là aussi représenté un gaveur alsacien. Dans les années 30, c'est une période où la Chambre d'agriculture du Gers organise par exemple un voyage d'études pour aller voir en Alsace comment on travaille, comment on prépare, comment on élève et comment on gave des oies. Donc la référence à cette époque-là, c'est l'Alsace. C'est encore l'Alsace. Alors, tout ça, ça a bien avancé. Bon, maintenant, le gavage, ça fait appel pas à des robots, mais presque. Hein. Vous verrez tout à l'heure, quand on comparera le temps de gavage au nombre d'animaux gavés à l'heure, qu'on peut plus se permettre de travailler avec même la version sophistiquée de l'embuc, qui est le gorgeoir, qui est une version qui nous éloigne déjà de l'invention du 19e siècle, qui est rappelée en haut, qui est l'embuc d'autrefois. Embuc, gorgeoir et matériel moderne de gavage. Quelques données techniques juste pour illustrer tout ça, un exemple avec des données moyennes. À gauche, un canard, loi. Alors, les foies produits à aujourd'hui, c'est en gros, pour un canard, 400-500 grammes, pour une oie, 800-900 grammes. Pour ce faire, on va utiliser environ 9 kilos de maïs pour les 500 grammes, 450 grammes du canard, et 17-18 kilos pour les 800-900 grammes de l'oie. La durée de gavage, il y a un chiffre qui s'est envolé, mais je crois que je m'en souviens. Donc la durée de gavage en jour, elle est de 12 pour le canard. Ensuite, Michel m'expliquera pourquoi j'ai un chiffre qui a disparu, ou alors non, c'est moi qui le vois de travers. Non, elle n'a pas disparu. Non, non, pardon. Donc, maïs utilisé 14 à 16 kilos, et par contre, en durée de gavage, 12 jours pour le canard, 15 à 18 pour l'oie. Quand j'ai démarré dans le foie gras, on était plutôt à 15, 18 jours encore chez certains éleveurs de canards, et à 20, 25, 28 jours pour certains élevages d'oie. Ça fait partie de ce que j'ai appelé les révolutions techniques, technologiques d'élevage, de gavage dans les fermes. L'exemple qui nous est donné là fait référence à une unité de mise en gavage de 1000 pour le canard, de 400 pour l'oie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gaveur, il va se faire livrer à un jour donné, 12 jours ou 15 jours avant de livrer, 12 jours avant de livrer l'usine, il va se faire livrer 1000 canards ou 400 oies. Il se fait livrer 1000 canards et en 12 jours, il va transformer ces canards prêts à gaver en canards gavés pour obtenir leur foie. Pour ce faire, il faudra 7 jours de travail pour les canards, une dizaine de jours pour l'oie, et à l'intérieur de ces 7 jours pour le canard, il y aura 3 heures par jour pour le gavage. Autrement dit, 3 heures par jour pour gaver 1000 canards, ça fait 180 minutes pour 1000 canards, donc ça fait entre 5 et 6 canards à la minute. Donc, il est certain que l'embuc ou le gorgeoir ne serait plus adapté aujourd'hui à ce type de production. On a vu l'amont de la filière. Maintenant, on va voir l'aval. Alors, l'aval, c'est à partir du moment où les animaux ont été gavés, ils sont prêts à être livrés. Ils sont livrés à quoi? Ils sont livrés à des abattoirs. Il y a 20 abattoirs contrôlés en France. Il y a une cinquantaine d'entreprises de découpe qui vont donc répartir les foies d'un côté, les viandes de l'autre. Et il y a 75 grandes entreprises de transformation. Et tout ça, ça représente 30 millions environ de canards abattus. Alors, on les a élevés, gavés, abattus. Ils vont être transformés par des usines. Et ça va donner un marché intérieur avec une dizaine de milliers de tonnes et 166 grammes par Français. On reviendra sur ces 166 grammes. Ça donne, en dehors du marché intérieur, des exportations. La France exporte, dans ce schéma de 2020, environ 3000 et quelques tonnes, et elle en importe 2003. La balance import-export est favorable à la filière foie gras. D'autant plus que, en plus de l'exportation des produits nobles de foie gras, il y a un certain nombre de produits dérivés qui contiennent du foie gras. Voilà donc le schéma de la filière. Alors, on a dit qu'il allait falloir transformer. Ben, pour transformer, on a une structure extrêmement large. Et ça va du groupe coopératif au foie gras maison. Alors le groupe coopératif, c'est quoi aujourd'hui? C'est trois grands groupes du sud-ouest. C'est l'Urberi, qui est un groupe basque, Maïsadour et Euralis, qui sont des groupes essentiellement sur les Landes, bien sûr, également Pyrénées-Atlantiques, et également, bien sûr, sur tout le grand sud-ouest, on va dire. Chez l'Urberi, majoritaire chez l'Aberi, le grand fabricant de saumon et de foie gras de Saint-Jean-de-Marenne. L'Urberi est propriétaire également d'une usine de foie gras, Marticot, en Espagne. Maïsadour, c'est Delpera, la comtesse du Barry. Et Euralis, c'est Rouget-Bizac et Grimaud. Après les grands groupes opératifs, vous avez des PME, j'en ai cité juste quelques-unes. Une, parce que j'aime bien rappeler la continuité avec l'Alsace, vous avez Feyel Arzner, qui est une PME existant encore aujourd'hui. Vous avez l'Arnaudi, qui est le leader dans le Lot, Valette, Godard, enfin, vous en connaissez beaucoup. Il y a des artisans, Crouzel, là il y en a des dizaines, voire des centaines. Vous avez ensuite tous les métiers de bouche, qui transforment beaucoup de foie gras, les charcutiers, les traiteurs, les restaurateurs. Et puis vous avez les producteurs transformateurs. J'en cite deux qui sont bien connus, Albier qui est sur les marchés, Germain qui est dans le cingle de Turnac. Mais là, il y en a des dizaines, et pas seulement en Dordogne, il y en a dans la France entière. Il y a des producteurs transformateurs dans l'Aisne, voire dans le Var, dans le Jura, il y en a partout. Et puis, il y a toutes et tous, il y a vous et moi, le foie gras maison. Parce que je pense que dans cette salle, il y a un certain nombre de transformateurs de foie gras. C'est bien sûr le meilleur foie gras possible, celui qu'on fait soi-même. On a parcouru rapidement les groupes coopératifs. Je vous ai rappelé l'Urberi, Maïsadour, Ralis. Eh bien, pas plus tard qu'en décembre 2021, qu'est-ce qu'on pouvait lire dans les échos ? Deux géants du foie gras, Maïsadour et Ralis, se rapprochent. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui trois groupes très importants et deux d'entre eux sont en cours de rapprochement. Alors qu'est-ce que ça donnera? Ça s'appelle des restructurations et ça se fait dans des conditions qui sont en général avec beaucoup de conséquences. On fabrique, on consomme. Alors on consomme quoi? Alors là c'est, je dirais, diversité, complexité. Ce sont des mots que vous connaissez tous, mais qui parfois sont pas mis dans le bon ordre. Vous avez du foie gras entier, du foie gras, vous avez des blocs. Vous avez aussi des parfaits, des médaillons, des mousses et des produits au foie gras. Tout ça, ce sont les termes qui gravitent autour de quel type de foie gras je consomme. Après, vous avez un autre groupe de termes, conserve, semi-conserve, mi-cuit, pasteurisé, frais, cru. Ça, c'est la façon dont le foie il est traité. Puis vous avez en quoi il est traité, comment il est traité, dans quoi ? Dans des boîtes, dans des bocaux, dans des sous-vides, dans des poffes, dans des barquettes. Alors, quand vous croisez tout ça, que vous prenez une appellation foie gras entier, en mi-cuit et en barquette, vous avez là une combinaison possible, et vous en avez énormément. Donc, c'est un univers divers et complexe. C'est à la fois la force du foie gras, parce que ça lui permet d'être présent dans de nombreux endroits et sous de nombreuses formes, ça pourrait être considéré, dans certains cas, comme une certaine faiblesse, parce que ça devient parfois un peu difficile à comprendre. La grande distribution, qui assure à peu près 75% de la vente de foie gras, elle est devant ce dilemme, qu'est-ce qu'elle vend? Eh bien, elle vend essentiellement ce que nous appelons, ce que vous appelez du mi-cuit. 80% c'est sous la forme mi-cuit, et moins de 20% sous la forme conserve. Alors, la grande distribution toujours. Vous avez ici une représentation des industriels qui sont concernés par la vente en grande distribution. Vous voyez que le plus grand intervenant, c'est MDD. Alors MDD, vous savez ce que c'est? Ce sont les marques de distributeurs. C'est-à-dire tout le foie qui ne porte pas le nom de Rougier, qui ne porte pas le nom de Bizac, qui ne porte pas le nom de l'Arnaudi ou d'Arzner. Et ça représente un quart du foie vendu en grande distribution représentant les trois quarts des ventes de foie. Vous avez ensuite un des intervenants importants, celui du groupe Urberi, qui est l'Aberi. L'Aberi représente dans ce schéma un quart des produits vendus en grande distribution. Puis vous avez les deux autres grands groupes des Landes, Euralis et Delpera, ceux qui seraient actuellement en voie de regroupement, qui représente l'un 12-6, l'autre 15-1. Alors, en voyant ce schéma, j'ai pensé qu'il y avait quelque part en France un stratège, dans une grande banque, qui avait ce tableau et qui s'était dit, si je regroupais Euralis et Delpera, 12 et 15, 27, je double la Berry. Voilà souvent, à mon avis, d'une façon un peu critique, comment se passe comment se déroulent les choses dans cet univers impitoyable de l'industrialisation du foie gras. Donc on a vu les MDD, l'Aberi, Delpera, Delpera, qui est le groupe Maïsadour, à réunir avec Euralis. Vous retrouvez ici l'Arnaudi que je vous ai cité tout à l'heure, qui est un indépendant du Lot, qui est quelqu'un d'important parce qu'il vend beaucoup à sa marque. Donc il apparaît là. Sinon, il apparaîtrait dans les MDD. Si l'Arnaudi, demain, ne vend plus à sa marque, eh bien, il vendra à des distributeurs et il fera augmenter le chiffre de MDD. Et puis les autres fabricants, pour mémoire. Et puis toujours mon petit Arzner qui est là avec 1,4%. Donc on a vu un petit peu cet univers. C'est un univers très compliqué. Et il y a un autre élément compliqué dans le foie, c'est la qualité. Alors, quand on a autant de produits, dans autant de présentations, dans autant de conditionnements, dans des rayons conserves, dans des rayons semi-conserves, du frais, du semi-frais, etc., difficile de s'y retrouver et de dire « je suis sur un produit de qualité ». Alors, il existe quelques aides à la qualité, ce sont les IGP en particulier, indications géographiques protégées. Ça permet à un consommateur français qui est un fanatique du Périgord de trouver quelque part un foie dans lequel on fera référence au Périgord ou aux Landes. Voilà. Mais, puisque nous sommes sur la qualité, je vais continuer à enfoncer le clou de la difficulté d'exprimer la qualité du foie gras. Et je me suis permis de présenter ce petit tableau que j'ai appelé « Qualité-prix, un univers impitoyable ». Alors, c'est un exemple, il ne fait pas une règle, mais il est symptomatique. En septembre 2020, 60 millions de consommateurs publient un reportage faisant référence à 40 foie gras du commerce et ils recherchent quel est le meilleur foie gras entier d'après cette enquête. Avec une note de 16 sur 20, c'est le foie gras de luxe, donc un MDD de luxe, c'est pas un fabricant. C'est le foie gras de luxe de chez Lidl qui arrive en tête des foie gras de canard entier à 6,70 et 125 grammes. Ce foie gras coûte 53,50 euros le kilo. C'est le moins cher de la sélection. Il serait ainsi le meilleur d'après les enquêteurs, je cite, autant par sa texture, juste comme il faut, que par son goût et sa couleur. Ce foie gras de marque de distributeur a séduit plus de 60% des panélistes et cerise sur la tartine. C'est le foie le moins cher de notre sélection. Le second, alors c'est une obsession chez moi, c'est Arzner. Arzner avec une excellente note, 15,5, mais dont le foie est vendu à 27,90 € et 120 grammes, c'est-à-dire 232. Alors, je n'ai pas inventé cet exemple. Il ne faut pas retenir que ça. Mais ça met là où ça fait mal quand même. Quand on parle de qualité prix du foie gras, des circuits de distribution, voilà un exemple qui est quand même troublant. Mais ça n'est qu'un exemple. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera un foie gras de chez l'Arnaudi, à sa marque, qui sera le meilleur rapport qualité-prix, et en tout cas le meilleur qualité, puisque l'objectif de 50 millions de consommateurs, c'était d'abord la qualité, et ensuite l'analyse du rapport qualité-prix, mais c'était d'abord la qualité. Consommation, qualité, grande distribution, un dernier schéma pour que vous sachiez tout sur le foie gras. Vous avez ici deux tableaux intéressants. Sur celui de gauche, vous avez la légende « Saumon fumé ou foie gras, chacun sa préférence ». Nous sommes là en grande distribution. Hein. Et vous avez quelque chose de surprenant, c'est que vous avez « Tout est rouge », sauf une bonne partie du Sud-Ouest. Eh bien, pourquoi? Parce que tout est rouge, c'est les régions où les distributeurs considèrent que le foie gras est le produit le plus demandé dans leur rayon, qu'il est plus demandé en particulier que le saumon. Par contre, les distributeurs du Sud-Ouest, c'est le saumon qui est le plus demandé. Alors l'explication elle est simple, c'est vous, moi, et c'est les agriculteurs, les circuits courts. Dans cette région, la part du foie gras qui échappe à la grande distribution est tellement importante qu'elle a inversé ce phénomène qui est partout vrai en France, le foie gras est devant le saumon. Donc, il est devant le saumon. Alors, dans le Sud-Ouest, il est devant le saumon encore plus parce qu'il est fait chez les uns, chez les autres et dans les fermes. Donc, c'était un tableau qui était assez perturbant du point de vue de ce rapport entre les deux références gastronomiques les plus citées, que sont le saumon et le foie gras, dont je rappelle que ce sont deux produits qui, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, étaient des produits limités dans le temps, dans l'espace, qui étaient très élitistes, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc voilà deux produits qui ont beaucoup évolué dans les 50 dernières années. On a tout à l'heure abordé le problème de la consommation par an, c'était un chiffre autour de 130-140 grammes. Vous avez ici un tableau qui pose une question, la question du déclin. Pourquoi ? Parce que sur ce tableau, vous avez, entre 1980 et 2020, certes, un passage de 50 grammes à 200 grammes par tête de pipe en France, c'est-à-dire le quadruplement de la consommation, mais, entre-temps, on avait monté jusqu'à 300 grammes, et on est redescendu, en 2010, on est redescendu à 200 grammes. Donc ça veut dire que quand on regarde de façon très froide ce tableau, le foie gras serait en déclin. Alors c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est pas certainement le désintérêt des consommateurs, c'est certainement pour beaucoup le problème sanitaire qui fait qu'à un moment donné, la disponibilité a été très inférieure. Puis c'est certainement aussi un peu les campagnes contre le foie gras. En effet, les deux embûches de l'avenir du foie gras, puisque maintenant il faut aborder et terminer cet exposé par l'avenir du foie gras, il y a deux embûches à mon avis. C'est d'une part, à gauche, l'interdiction du gavage, et à droite, les phénomènes sanitaires. C'est pas drôle, alors pour détendre l'atmosphère, je vais vous lire un petit texte qui date du milieu du XIXe siècle. Ce texte, on le trouve dans l'excellent dictionnaire de Dumas sur la gastronomie et l'alimentation. Et il commence ce texte, Dumas fait référence à une pétition qui aurait été présentée à la Chambre des Pairs. Cette pétition nous dit, noble père, au mépris des lois de la nature adoptées par les deux chambres et garanties par les lois de l'humanité, les Strasbourgeois s'appliquent à nous faire grossir monstrueusement un viscère composé de deux lobes inertes, ailes coupées, pattes clouées sur des planches, yeux crevés. Les oies supplient de proposer une loi qui défende aux Strasbourgeois de martyriser la volaille. Puissiez-vous étendre ce bienfait jusqu'aux extrémités de l'Empire et jusque sur les canards de Toulouse, nos malheureux cousins. Nous sommes là au milieu du XIXe siècle. Donc, il y avait anguille sous roche. La situation aujourd'hui, partout de l'Europe, nous sommes membres de l'Union européenne, et donc en Europe, il y a deux éléments importants concernant ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est une directive et une recommandation. La directive, elle est sévère. Pour elle, le gavage est illégal puisque aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. C'est l'article 14 de la directive. Mais la recommandation qui interdit le gavage l'interdit, sauf dans les pays où il était traditionnellement pratiqué. Alors, c'est bien pour ceux qui aiment le foie gras, c'est quand même quelque chose d'un peu acrobatique, mais on vit avec ça aujourd'hui. Voilà la législation. Alors ça donne quoi en Europe ? Ça donne 6 pays qui ont le droit de gaver, la France, l'Espagne et la Belgique, et puis les deux pays de l'Est traditionnels, Hongrie et Bulgarie. La Pologne a disparu, on l'a déjà évoqué. Voilà la situation. Donc tous les autres pays qui sont en vert sont des pays où il est interdit de gaver. Alors après, on va rentrer dans la notion de interdit de gaver, interdit de manger, interdit de commercialiser. C'est beaucoup plus compliqué et ça nécessite un autre tableau que voici. Alors sur ce tableau, vous avez d'abord les petites usines bleues qui rappellent les pays où on a le droit de gaver. Puis vous avez tous ceux qui montrent des oies barrées qui interdisent le gavage, mais vous avez aussi un petit chariot qui montre par exemple qu'en Allemagne, depuis 2009, après une interdiction de gaver en 1993, depuis 2009, il est interdit de vendre des produits issus du gavage en grande distribution. Vous avez la même chose en Pologne. Alors la Pologne, c'est le summum, c'est un pays qui était producteur. Il a interdit le gavage, il a sabordé sa filière, et comme ça ne lui suffisait pas, en 2009, il a interdit de vendre en grande distribution. Voilà, et vous avez des dates, hein. La Norvège c'est en 1974, la Suisse en 1978, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien, l'Italie en 2004, les interdictions. On va passer au reste du monde. Et avant, je reviens sur un petit mot sur Israël. J'ai cité la Pologne, qui a arrêté de gaver. Et vous avez l'exemple d'Israël qui est intéressant. Israël, quand j'étais dans le foie gras il y a bien longtemps, c'était un de mes fournisseurs. C'était un fournisseur de Delpera. C'était le quatrième producteur mondial de 500 tonnes. 500 tonnes. Donc sur l'import qui représentait moins de 10 000, il représentait quand même quelque chose de significatif. Eh bien, en 2003, la Cour suprême d'Israël, qui est un organisme laïque, elle déclare le gavage contraire aux lois de la protection des animaux. Vous voyez, quelque chose qui ressemble à la position de principe de la directive de Bruxelles. En janvier 2005, cette même cour, elle interdit le gavage et elle donne 18 mois de délai d'application. Donc les Israéliens, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont détruit les abattoirs, dédommager les fermiers qui gavaient, enfin, ça a été une opération quand même économiquement très, très... Et comme ça ne suffisait pas, fin 2006, en 2006, ils ont donné la fin définitive de la production, donc c'est l'issue des 18 mois de 2005, et en 2013, une interdiction d'importer le foie gras. Voilà l'exemple d'un pays hors Europe qui a muté de façon extrêmement violente. Alors, ce fameux reste du monde, incluant bien sûr Israël, ben vous avez, il reste deux producteurs, ils sont en bleu, hein, significatifs, c'est la Chine et le Canada. Alors la Chine, pour des tas de raisons, y compris des raisons franco-chinoises, hein, parce que c'est peut-être pas tout à fait, on n'est peut-être pas tout à fait blanc dans l'univers du foie jaune, hein, si j'ose dire. Bien, mauvais calembour. Vous avez ici une interdiction totale en Californie. Le 7 janvier 2019, il est interdit de gaver, d'importer et de consommer du foie gras. C'est le summum de ce qu'on peut faire. Vous avez la même chose dans quelques États du Brésil, en particulier l'État du Paraná, qui est un État où nous allons rarement, vous et moi, où il est interdit de gaver, d'importer, de consommer. Et puis vous avez des pays comme l'Inde, où il est interdit de gaver et d'importer. En Australie, il est interdit de gaver, mais pas d'importer. Il est toujours... Donc vous voyez la complexité, mais il y a quand même pas mal d'interdictions qui existent dans le monde. Alors ces interdictions sont le résultat d'actions de lobbying, hein, et on connaît bien, on est concerné. Hein. Je vous donne deux exemples récents, hein, enfin récents, des dernières années. Vous avez ici un exemple en Bretagne d'une opération menée par L214, foie gras stop gavage, on appelle à des opérations, on se couche par terre, on se couvre de sang éventuellement. Enfin, ça peut prendre des proportions. Donc il y a des gens qui, au nom de principes végétariens, végétaliens, voilà. Et tout récemment, vous avez eu cette année l'opération foie mère écologiste qui a consisté à annoncer à grand renfort de pub que ces municipalités enlèveraient le foie gras des buffets organisés par les... Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement qui est lié à d'autres mouvements, plus de végétaux, moins de gaspillage. Est-ce que on peut défendre longtemps qu'un aliment qui nécessite une double transformation, parce que le foie gras, c'est déjà une transformation dans l'animal. Il y a peu d'exemples où on passe son temps à prendre un organe d'un animal vivant et de le transformer en autre chose avant de l'extraire pour le transformer à nouveau. Donc ce sont des circuits très compliqués pour les gens qui sont des adeptes d'une évolution vers... l'économie circulaire, l'alto-gaspillage, il y a des arguments. Alors, il y a une résistance à travers différents phénomènes. Hein. Vous avez les marronniers du mois de décembre, c'est-à-dire chaque année depuis 5-6 ans, il y a un article en décembre qui explique qu'on fait du foie gras sans gavage. Alors il y a 6-7 ans, c'était en Espagne, il y a 3 ans, c'était près de Toulouse, cette année, c'était en Alsace. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'on va arriver à leur dire « Est-ce que tu pourrais te gaver toute seule ?» Ça semble difficile. En tout cas, cette année, c'était un Alsacien, Marcel, je l'appelle Marcel parce que je le connais bien maintenant, qui essaie de faire du foie et qui dit qu'il en fait. Mais en général, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, wait and see, comme on dit en Alsace. Hein. Autre type de marronnier, jusqu'à présent marronnier, je ne dis pas que ce sera. Vous avez un chercheur, et là c'est un sérieux, il est de l'INSERM, il travaille sur un phénomène qui favoriserait la flore intestinale. Enfin, il y a quelque chose de scientifique, il y a besoin de 600 000 euros pour commencer à démarrer le processus. Pas de nouvelles, rien de particulier, à suivre. Hein. Donc je vous le livre, ça existe. J'ai connu, moi, un chercheur dans les années 80, dans les années 80, qui prétendait reproduire l'autogavage de l'oie par une intervention chirurgicale qui consistait à détruire dans le cerveau, par une opération à organiser de façon très subtile, le centre de satiété de l'animal, étant entendu que si vous prenez une oie, que vous trouvez l'endroit dans le cerveau où il y a la satiété, vous détruisez la satiété, quand il bouffe, vous lui mettez 20 kilos de maïs, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête, puisque c'est ce centre de la satiété qui nous dit, comme elle dit aux oies, arrête de manger, tu as assez mangé. Donc j'ai connu ça, c'est ce qu'on appelle un peu les savants fous, mais lui, il est plus sérieux, puisqu'il fait appel à des notions microbiologiques. Donc voilà. Donc voilà les contre-feu possibles. Et puis après, on en dira deux mots. Il y a le poids de cette économie du foie gras, il y a le poids de l'histoire, le poids de la gastronomie. Il y a des choses qui permettent de tenir encore. L'autre élément, on en a parlé, c'est l'aspect sanitaire, où là, je suis personnellement, dans le court terme, plus inquiet. Voilà. On rappelle les catastrophes. À aujourd'hui, il y a des destructions d'élevage dans les Landes. Aujourd'hui, ou il y a 3 jours. Donc ça veut dire que, de la même façon que nous, on va devoir vivre avec la Covid, les éleveurs des Landes vont devoir vivre avec cette pandémie. Il y a un petit problème, c'est le problème économique. C'est qu'à chaque fois que ces éleveurs, on leur fait détruire tout, on les rembourse. Donc c'est le coût indirect caché du foie gras. Hein. Alors le foie gras du rêve, peut-être pour vous, peut-être pour moi, peut-être pas pour les oies, même si une des belles gaveuses que je vous ai montrées tout à l'heure s'appelle le rêve. Voilà. Alors ce fameux gavage qui fait l'objet de tant de discussions, bon, soyons courageux, vous avez à gauche des images des anti-gavages qui vous présentent des canards dans un état de délabrement absolu, on est presque dans le film gore, hein. Vous avez en bas un gaveur fou qui essaie de martyriser à grands coups d'objets de gavage son canard qui n'en peut mais, bon, voilà. Puis vous avez à droite ce que veut présenter aujourd'hui l'organisation agricole en disant nous, le gavage, on le fait dans des conditions beaucoup plus confortables pour les animaux en faisant appel à des cages où les canards peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, se promener bavarder. Bon, voilà. Le problème, il est posé, là. Hein. Alors, comme je le disais, comme j'annonçais, vous avez du lobbying pour maintenir. Vous avez ici des cuisiniers, des traiteurs, etc., qui font des pétitions, etc. Et puis vous avez le poids de la valeur gastronomique du foie. Quand vous voyez des photos comme ça, on n'est plus dans l'aliment, là. On n'est plus pour savoir si le bilan calorifique est-ce qu'il est économique de transformer du maïs en matière grasse. On est devant une part de rêve. Alors, est-ce que l'homme, il est fait uniquement de choses rationnelles ou un peu d'irrationnelles? Alors, on est certainement dans l'irrationnel. Mais bon, à gauche, vous avez un foie gras chaud, présenté d'une façon merveilleuse. Et à droite, une très jolie terrine de mi-cuit, de canard, truffé 5%. Bon, il y a des arguments, mais ce sont des arguments qui sont, j'allais dire, civilisationnels. Voilà. Voilà. Alors, bon, j'ose faire deux images pour nous détendre. Celle de gauche, elle est pas très grave, mais celle de droite, elle est quand même plus inquiétante. Hein. Il est certain que si on associe le gavage de façon aussi violente à quelque chose de mortel, ça ne plaide pas pour le maintien d'une filière en pleine forme. Voilà. Alors, pour faire tout ça, je me suis servi d'un merveilleux ouvrage qui s'appelle, que j'ai ici, qui s'appelle Le foie gras, qui date de 1993, qui est écrit par Silvano Cervanti, qui est un Italien, italo-français, qui est un historien de la gastronomie, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et puis un ouvrage plus vintage, qui est l'histoire du foie gras, dont j'ai montré l'image tout à l'heure, de Desfarge, et puis toutes sortes de choses. Et vous voyez en bas les 10 livres de cuisine d'Apicius, que j'ai cité à plusieurs reprises, qui a fait l'objet d'une édition en Suisse il y a quelques années, que j'ai acquis avec tant de bonheur, et qui nous donne des recettes de foie gras établies par ce grand gastronome romain. Voilà, donc on approche, voici la photo du livre de Cervanti, celui de la phrase « 1000 ans d'une histoire certaine ». Et puis, voilà. J'espère ne pas vous avoir gavé.
Hein? Oui. Bon, eh bien, merci beaucoup, Robert. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de manger du foie gras ou pas. Vous allez y réfléchir tranquillement. Mais, bon, de toute façon, ça nous a quand même beaucoup éclairé. Merci beaucoup. Vu l'heure, je pense qu'il serait raisonnable, et surtout de ne pas trop se rapprocher les uns des autres, donc je pense qu'il serait raisonnable de nous quitter. Et encore une fois, un grand merci, Robert. Hein, nous savons tout sur le foie gras.